Pierre fait partie de ces hommes qui ont choisi de vivre et d'incarner le changement. Ce changement est tant poétique que pratique. Il le vit au quotidien avec sa femme et ses enfants, en cultivant la terre, en démontrant qu'en partant de rien, il est possible de créer la fertilité sans l'utilisation d'engrais. La parole et les actes, il les transmet via son mouvement du colibri. La légende amérindienne du colibri, il en a d'ailleurs fait sa devise. Dans notre émission radio La Voix du Colibri, nous nous retrouvons avec le père du mouvement qui nous raconte avec ses mots la légende de ce si petit oiseau.
Dans l'ambiance générale de découragement, de on ne sait plus quoi faire, etc., etc., quand je suis tombé sur cette histoire qui est amérindienne, qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, là, découragés, etc. Par contre, le colibri, qui est un petit oiseau tout gracile, tout fragile, on le confond parfois avec un insecte, lui, ne renonce pas. C'est-à-dire qu'il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, les jette sur le feu, et il recommence et il s'active. À un moment, le tatou, un peu énervé, lui dit « Mais colibri, Tu penses tout de même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri le regarde bien en face et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et ça m'a été très inspirant, vraiment dans le sens où, effectivement, faire sa part et ne pas se contenter simplement de se plaindre et de geindre et de voilà. Et ça, j'ai pris ce symbole qui m'a paru vraiment bien exprimer ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, à l'image de cette histoire où l'incendie, le feu brûle, Pierre, quel est pour toi cet incendie ?
L'incendie, c'est la mondialisation, c'est le rapport de l'humanité avec une planète magnifique qu'elle est en train de détruire, qu'elle est en train de polluer, qu'elle est en train de profaner, qu'elle est en train de mille manières. On tombe dans un questionnement très très fort finalement. Est-ce que l'humanité c'est une chance pour la planète ou est-ce que c'est une calamité pour la planète ? Bon, je pense qu'il y a probablement les deux. Mais ce qui paraît dominant aujourd'hui, c'est quand même cette calamité, quoi. Et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs que l'impact ou le rapport de l'humanité avec cette merveilleuse planète est négatif. Puisque ça fait toutes les grandes civilisations qui ont émergé, qui sont devenues importantes, l'ont fait au détriment de la vie de la planète. On admire aujourd'hui, par exemple, les pyramides, etc., etc. Mais il faut savoir que les grandes civilisations, comme l'Égypte, Mésopotamie ou autres, ou même certaines civilisations amérindiennes, etc., se sont construites sur véritablement une espèce de prédation et par l'agriculture excessive, par le pastoralisme excessif, par les prélèvements de bois excessifs, par l'impact de l'humain qui a contribué quand même à créer des déserts. Et on sait qu'il y a des civilisations qui sont enfouies sous le sable des déserts qu'elles ont provoqués. Voyez, je recommande souvent la lecture d'un livre qui est très pédagogique et très intéressant, qui a été salué par Einstein, par Huxley, par beaucoup de gens qui vraiment étaient quand même des êtres de réflexion. C'est La planète au pillage de Osborne, et où là il reprend depuis les origines l'impact de l'humain sur la planète. Aujourd'hui, nos pulsions prédatrices sont toujours là
et se sont accélérées aussi au cours de ces derniers siècles.
Il y a non seulement une accélération, mais on a donné de l'efficacité par les instruments que nous avons créés à notre prédation. Entre abattre un arbre en suant et abattre un arbre maintenant avec une tronçonneuse, vous avez dans les forêts tropicales, les grandes forêts, vous avez maintenant des espèces de monstres qui rentrent dans la forêt et qui abattent les arbres en un quart d'heure, un arbre magnifique et abattu et branché. Donc ce qui veut dire que si notre pulsion ne change pas, avec les outils et les moyens que nous avons, nous allons accélérer d'une façon redoutable le processus de dégradation. Donc on peut dire que le pillage, cet instinct prédateur et pillard, est aujourd'hui doté d'instruments qui accélèrent considérablement et terriblement les processus de dégradation.
Pour en revenir à la légende du colibri, donc on a vu l'incendie, mais Pierre, quelle a été votre part? Quelle a été la part de Pierre Rabhi?
Pour ma part, bah, je dirais que d'aucuns disent qu'elle est considérable. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Moi, en tout cas, j'ai essayé de faire ma part, et cette part est devenue très importante parce que je suis rentré dans des processus qui sont, ou dans des implications qui sont d'un ordre, disons, important et vital. Je suis essentiellement un agroécologiste. Pourquoi je suis un agroécologiste? Parce que ça répond à deux nécessités, à la fois la nécessité de survivre de l'humanité, mais à la fois la nécessité de prendre soin de la terre qui nous nourrit, c'est-à-dire par des techniques qui permettent finalement de restaurer, de lutter contre l'érosion, le reboisement, la préservation des semences, préservation des sols, par des travaux raisonnés, etc. Et donc cette approche est le contraire, justement. On parlait de la capacité prédatrice et destructrice de l'être humain. En agriculture, c'est terrifiant, terrifiant. On a des tracteurs puissants maintenant. Le sol est violé, il n'est même pas travaillé, il est violé vraiment par des machines. On y met des substances chimiques qui le détruisent, qui polluent en plus les nappes phréatiques par infiltration, qui pollue l'environnement parce qu'on propage énormément de pesticides, etc. Et l'agriculture, qui était devenue l'activité justement de survie de l'humanité, est une activité qui est devenue maintenant l'activité de son extinction. C'est-à-dire qu'on est en train de... Si nous continuons sur ce rythme et de cette façon, il est certain que nous allons vers l'extinction de l'humanité par inintelligence, par stupidité. Et c'est sur cette voie que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'agroécologie se positionne totalement autrement. Elle se positionne dans produire et régénérer et respecter et améliorer. Et non pas produire et détruire et polluer, etc. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de pompier pyromane. C'est-à-dire qu'on détruit... On détruit le bien des pauvres et en les incitant à le détruire eux-mêmes, d'ailleurs par la chimie, par l'exportation, par etc. Et puis après, on prétend les secourir avec des sacs de riz. Donc nous rentrons en plein dans supprimer l'humanitaire par l'humanisme et dans l'idée de transmettre un peu l'adage. Donner du poisson ou apprendre à pêcher, ben nous apprenons à pêcher aux gens. Et chaque paysan doit devenir un thérapeute et un ami de la terre, et non pas un ennemi de la terre. Il faut arrêter avec ces processus-là.
L'agroécologie, c'est un terme qui a été inventé par vous, ou c'est quelque chose qui existe déjà, qui existait déjà ?
Je dois dire que j'y suis pour beaucoup, parce que c'est en fait... j'ai été agriculteur bio ici en France, où ce domaine, on l'a géré sur ces critères-là, on l'a amélioré nos terres, etc. Et puis quand je me suis retrouvé en Afrique, je me suis dit, mince, mais je ne peux pas seulement faire du compost pour la terre, etc. Il y a le désert qui s'est installé, les arbres ont disparu, les sols sont dénudés, etc. Et donc j'ai proposé l'agroécologie. Alors c'était quelque chose qui était un peu dans l'air, hein, voilà. Mais je lui ai amené, ça m'a beaucoup parlé, et je lui ai amené une confirmation très forte. Parce que ici, je peux me contenter simplement de faire du compost, de traiter mes sols, etc. Là-bas, je ne peux pas me contenter seulement de traiter les sols, il faut encore traiter l'environnement dégradé. Parce que tout le monde sait que dans les années 70, il y a eu une sécheresse épouvantable dans le désert. Vous êtes un peu jeune, mais nous, on se souvient bien de ces images. De sécheresse, de territoire d'apocalypse, avec des animaux qui jonchaient à perte de vue le territoire, mort de faim, des sols craquelés, desséchés, etc. Des bêtes squelettiques, des hommes squelettiques, et on a connu tout ça, on a vu tout ça. Et donc, ce qui veut dire qu'on a voulu intervenir par la restauration des sols Parce qu'on a fondé une idéologie qui a donné à l'argent la pleine puissance. Et l'Europe a inventé cette civilisation. Mais la première victime de cette civilisation, c'est l'Europe elle-même. Parce que les voyageurs du XVIe-XVIIe siècle, vous disiez, on passait d'une province à l'autre, les gens s'habillaient pas de la même manière, ils mangeaient pas de la même manière, ils avaient une architecture spécifique, ils avaient une langue spécifique, c'est-à-dire que c'était l'Europe, c'était une multitude de communautés humaines, de tribus, si on peut dire, de gens qui avaient inventé leur mode d'existence dans un rapport direct avec la nature. Et ensuite, l'idéologie est arrivée et guerre de 14, massacre épouvantable. Les paysans allemands, les paysans français, ils sont massacrés. Ils sont génocidés mutuellement sur des idées, sur Et on sait que par derrière tout ça, c'était l'intérêt de Krupp, l'intérêt de tous les marchands d'armes, l'intérêt de tout ça. C'était ça, surtout la guerre de 14. Et ces pauvres paysans, ils ont été tellement endoctrinés qu'ils sont allés la fleur au fusil en découdre avec les paysans allemands. Les paysans allemands ont fait la même chose, on les a excités à se détruire mutuellement. Donc ça a été une phase. Il faut parler de génocide. Il y en a marre de parler de la guerre, lieu de l'héroïsme, etc. On peut aller n'importe quel village français, on trouve des listes de ces martyrs, de ces gens innocents qu'on a tellement endoctrinés, qui sont allés tuer les autres et se faire tuer, etc. Donc c'est un génocide.
Quelqu'un disait finalement une guerre, c'est deux personnes qui se connaissent, qui mangent ensemble, hein, qui parlent ensemble, qui envoient des milliers de gens qui ne se connaissent pas se faire tuer.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des connivences entre les gens qui effectivement ont des intérêts communs. Et puis ensuite, ben, on envoie les toutes ces pauvres gens devenir de la chair à canon et se battre pour des questions qu'on leur a inculquées, enfin des questions qu'on a enkystées dans leur esprit. Et quand un endoctrinement est puissant, ben cet endoctrinement, il vous fait croire que ce qu'on vous dit, c'est normal. Voilà. Et puis, quelqu'un va tuer 15 000 personnes, on va le décorer, ce sera un héros, hein, ce sera quelqu'un de bien. On ne dira pas que c'est un assassin, on dira que c'est un héros.